Jeudi 24 novembre, l'Assemblée nationale a voté à une très large majorité en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française. Une ovation debout d'une large part de l'hémicycle a salué cette adoption par 337 voix contre seulement 32. Marine Le Pen, elle, avait proposé peu de jours avant de constitutionnaliser la loi Veil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau club des hommes en noir qui sera consacré, vous l'avez deviné évidemment, à la question de l'avortement. Pour en parler aujourd'hui, pour discuter, pour débattre éventuellement, je reçois l'abbé Claude Barthes.
Bonjour.
Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les auditeurs.
Le père Danziek.
Bonjour Philippe et bonjour à tous.
Anne le Pape.
Bonjour Philippe, bonjour
la
à
laïque
tous.
De l'étape. Alors, madame, messieurs, cette volonté d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, est-ce finalement un nouveau pas en avant dans la culture de mort ou finalement plutôt beaucoup de bruit pour rien, un coup politico-médiatique, puisque l'avortement, on le sait, est largement aujourd'hui inscrit dans les mœurs, par le biais des lois, mais inscrit dans les mœurs.
Cellier
veut parler. Allez-y,
non, je ne vais pas parler, mais...
Je vous donne la parole.
Voilà.
Parlez.
Donc, d'abord, c'est une réaction à une décision états-unienne, n'est-ce pas, de la Cour suprême américaine. Décision parfaitement légale et motivée, n'est-ce pas, la Cour suprême faisait son travail, qui rendait aux États fédérés des États-Unis donc leur liberté démocratique, dont ils ont profité, puisque certains États ont augmenté le temps de l'avortement, certains l'ont réduit, la plupart l'ont conservé tel quel, et qui n'a rien à voir avec l'état des choses en France. Donc là, on va inscrire ça, je ne suis pas sûr que ça aboutisse, parce qu'il faut l'accord des deux chambres, il faut le Congrès, et peut-être même un référendum. Mais la Constitution, de ce fait, enfin, c'est pas seulement ce chose-là, tend à devenir un fourre-tout qui n'a plus aucun sens et aucune valeur. Ça n'avait déjà pas une grande valeur, mais enfin,
On en parlera, j'espère.
J'étais déjà pantois devant la décision des Suisses d'inscrire l'interdiction des minarets dans la Constitution, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Bon, ils ont fait ça à la suite d'un référendum il y a un ou deux ans. Maintenant, on inscrit l'avortement, on va bientôt inscrire je ne sais pas quoi, la défense des animaux, enfin
oui,
n'importe
enfin,
quoi.
Que le droit à l'avortement, ce n'est pas complètement anodin comme symbole au moins.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de mettre des choses dans la Constitution qui n'ont rien à voir. La Constitution définit les grandes lignes et définit le fonctionnement de l'État. Si on rajoute des minarets, de l'avortement, etc., ça n'a plus aucun sens.
On parle assez peu des minarets en France, tous les
quatre matins. Mais voilà, ça ne changera rien, puisque de toute façon, contrairement aux États-Unis, où il y a une lutte féroce entre les pro-vie et la culture de mort, en France, ça n'est pas le cas, et donc il n'y a aucun danger légal que l'avortement soit moindrement remis en cause. Donc c'est du sketch.
Donc c'est juste une réponse...
aux États-Unis, ça c'est clair.
Aux États-Unis,
voilà.
Peut-être aussi une manière de troubler le jeu politique, Macron jetant une peau de banane sous les pieds du Front National.
Voilà, c'est ça.
Il y a aussi
du Rassemblement National.
Mais
qui a évolué lui-même.
Qui évolue sur lui-même, sur mais qui est question. Divisé, comme sont un peu divisés aussi les Républicains. Bref, ça permet de troubler un petit peu, je sais pas, enfin j'imagine.
Il y a quelque chose quand même de terrible dans cette décision, c'est un sujet grave, éminemment grave, enfin qui a quand même divisé, secoué la société française au milieu des années 70, à l'occasion de la loi Veil. Et finalement, 50 ans après, à quoi assiste-t-on? On assiste sur un sujet grave à un motif d'esbrouffe politique,
oui.
D'agitation, et donc, pour rejoindre votre question initiale, bah, en fait, il y a une sorte de logique dans la société actuelle. Personne n'est étonné qu'on souhaite installer, constitutionnaliser la question de l'avortement. Voilà, ça soulève pas une indignation générale. Je crois qu'il y a une vingtaine de députés qui a voté contre. 32. Donc, enfin, c'est rien du tout. Et en même temps, ce qui est vraiment problématique, c'est que le sujet est terrible. C'est quand même, voilà, c'est avec notamment ce qui s'est passé avec ce pauvre abbé Schneider qui a été poursuivi, je pense qu'on en parlera, repris par son évêque, parce qu'il a osé comparer, je le rappelle pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, qu'au moment d'une cérémonie...
Le 11 novembre.
Le 11 novembre, mais une cérémonie liturgique, religieuse. Il a comparé le nombre de personnes qui sont mortes pour la patrie dans le cadre de la Grande Guerre en comparant les innocents qui sont morts depuis la loi Veil. Donc, il a été repris pour cela. On voit bien qu'il y a...
Il a été sanctionné, même.
Il a été sanctionné. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a un sujet très grave qui est le lieu d'une esbrouffe politique. Et en même temps, on se trouve un peu piégé parce qu'on voit bien que c'est de l'agitation. Et on voudrait réagir. Et en même temps, il y a une logique avec la pensée démocratique actuelle que c'est que logique que cet avortement finisse par être constitutionnalisé, comme demain, il semble tout logique, sans être défaitiste par avance, que la GPA, par exemple, soit légalisée, vous voyez, qu'est-ce qui nous interdit de le penser ?
Mais ça a toujours été de l'esbrouf. Dans les années 60, vous dites, de quand date exactement ?
74-75.
Oui, c'était une manière pour Valéry Giscard d'Estaing de...
paraître moderne,
oui, c'est ça, et de piéger la gauche sur ces sujets qu'on appelle aujourd'hui socialistes.
En allant plus loin, effectivement. Mmh. J'aimerais bien qu'on entende Anne Le Pape, quand même, puisqu'on a une femme parmi nous, une femme en noir. Merci, chère Anne.
Moi, je dirais que le sujet a toujours divisé le Front National. Il y a toujours eu des tenants de la défense de la vie au Front National. On sait que Bruno Gollnisch, par exemple, y tenait beaucoup. Et toujours des gens qui pensaient que ce genre de sujet était un boulet et qu'il fallait abandonner. Manifestement, on a vu Marine Le Pen hésiter sur ce sujet. Bon, finalement, elle a appelé à voter une loi proposée par un député LFI du Val-de-Marne, c'est quand même un peu beaucoup, mais bon.
Avec un accord avec la majorité présidentielle,
d'ailleurs. Mais donc, ça veut dire que le Rassemblement national rejoint, je dirais, la majorité sociétale de l'Assemblée et n'est absolument pas décidé à se battre sur ces sujets de société qui sont très importants et dont l'avortement est évidemment un sujet essentiel. Mais, le Rassemblement national est un parti politique. Que font les évêques qui sont quand même les premiers à devoir défendre ce genre de cas ? Je vais vous raconter une petite histoire qui se situe dans les années 90.
Nous aimons bien
un responsable politique. Un responsable politique. demande un rendez-vous à son évêque qui ne cesse de lancer des piques contre le programme de son parti. Il obtient le rendez-vous en tant que paroissien et non pas en tant que responsable politique. La discussion dure une bonne demi-heure et le responsable politique lui dit à son évêque « Nous avons au moins un point commun, la défense de la vie ». Et l'évêque ne répond absolument pas sur ce sujet-là et lui parle de l'avenir de l'Église qui est dans la diversité et autres fariboles. Bon, évidemment, vous avez deviné qu'il s'agissait d'un responsable du Front National, c'est Martial Bild, qui était tête de liste en Seine-Saint-Denis, et Monseigneur de Roubaix était son évêque, évêque de Saint-Denis et non pas de Seine-Saint-Denis, oui, comme il le disait. Donc, comment peut-on... Oui, il est normal que l'on soit étonné, attristé, désespéré de ce genre de vote de la part de gens qui peuvent, sur d'autres points, défendre, être proches de nous. Mais si les évêques ne font rien, on sait avec l'autobiographie de Simone Veil, qu'elle a cherché à savoir si les évêques défendraient justement la défense de l'avortement, seraient contre l'avortement, s'élèveraient contre cette légalisation, il n'en a rien été.
Ça n'a pas été le cas. Puisqu'on a abordé la question du Rassemblement national, est-ce que, pour éviter cette inscription du droit à l'avortement dans la Constitution telle qu'il a été voté à une très très large majorité par l'Assemblée nationale, est-ce qu'on aurait dû passer par la stratégie de Marine Le Pen qui, pour en réduire les effets, proposait, elle, de constitutionnaliser la loi Veil.
Non, mais ça, c'est lamentable, parce que ça voudrait dire que la loi Veil serait...
Qui n'est pas lamentable, pardon.
Merci. La loi Veil, parce que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, est, on va nous expliquer que c'est une loi de tolérance. Bon, c'est, finalement, c'est une bonne loi, la loi Veil. Ça, on va finir par
c'est,
vous dire...
C'est ce que dit Mgr Dornelas.
Oui, c'est, on va dire que c'est une loi catholique. Et on va se rabattre sur la loi Veil pour se défendre. Non, c'est absolument lamentable.
Et donc, mais pourquoi c'est absolument lamentable? Parce que...
Mais parce que la loi Veil, en tant que le seul fait de... Enfin, il y a deux choses. Premièrement, évidemment, de légiférer en permettant l'avortement, que ce soit pour... dans quelques conditions que ce soit, c'est un crime contre l'innocent qu'on permet et qu'on légalise.
Donc, vous voulez dire que ça reste toujours un
ça
mal, quelles
que toujours
soient
un
les
mal,
conditions.
Quelles que soient les conditions, bien sûr. On va arriver, sans doute, un jour, à tuer les petits-enfants.
Nés.
Oui, nés, mais ça se fait, hein. Mais ça va se
oui,
faire.
Oui, pour des malformations,
ça,
etc.
Oui, ça fait une espèce d'euthanasie.
Ça se propose sous le manteau, sous la blouse. En tout cas. Moi, j'ai eu encore un témoignage d'une paroissienne cette semaine qui me disait qu'un enfant était né avec une malformation qui n'avait pas été découverte pendant la grossesse. Et quand l'enfant est né, je signifie bien l'enfant était viable, et on lui a proposé, sous le manteau, donc sous la blouse, on lui a dit, écoutez, voilà, est-ce que vous voulez le garder ou pas?
Alors, merci mon père pour ce témoignage, c'est vraiment très important, mais vous aviez commencé.
J'ai commencé
en disant qu'il y avait deux raisons.
Oui, alors celle-là, quand même, elle va donc, de l'enfant déjà né jusqu'à la racine, jusqu'à la, l'expulsion du fœtus ou même de la cellule déjà vivante, hein, embryonnaire. Donc, c'est non seulement la pilule normale, mais aussi, puisque les pilules dans l'organe. Immense majorité, la pilule contraceptive donne.
Est abortive.
De fait avortive, enfin, en tout cas possiblement avortive. Donc c'est comme si une espèce d'embuscade, si le type je tire, bon, là, si l'enfant en vient, je l'expulse. Donc tout ça est intrinsèquement mauvais, contraire à la loi naturelle, mais plus radicalement, ce contre quoi il faudrait se battre, en tout cas se battre, on ne va pas y arriver, mais en tout cas le dire, et ce que devraient dire les évêques, c'est que ça n'est pas une question qui peut être votée par une assemblée. Ça n'est pas une question qui puisse...
Vous voulez dire soumise à la volonté générale.
Soumise à la volonté générale. C'est le principe même de la démocratie, en fait, qu'il faudrait attaquer, en l'espèce, depuis l'origine.
On va encore se faire des amis.
On va se faire des amis, enfin bon. Depuis l'origine, si vous voulez. Dès l'instant que la volonté générale est devenue dans le principe de l'élaboration des lois, et non pas le rapport à la loi divine, on a commencé à attaquer la loi naturelle. Ça a été la loi sur le divorce, qui est aussi intrinsèquement mauvaise et qui détruit la société. Et ainsi de suite.
Ça remonte très loin, ça, pour le coup.
Ça remonte à 1793 ou 12. Mais bon, ça n'a pas toujours été. Puis il y a eu quand même toute la longue période...
Jusqu'à la loi Naquet.
À la Restauration, la loi Bonald, jusqu'à la loi Naquet, en effet. Ben, ça, c'est pour le divorce. Mais pour l'avortement, ben, on arrive à des choses comme ça. Puis on arrive à l'euthanasie, ainsi de suite.
Oui, en fait, vous êtes en train de dire qu'il y a une logique...
Il y a une logique de la démocratie moderne vers ces choses-là. Et les évêques devraient aussi le dire de la manière adéquate, hein, évidemment.
Mais enfin, il faut aussi être audible aussi dans une société.
Il faut être audible, tout à fait. Il faut être audible. Et dire tout de même que ces choses-là ne peuvent pas être soumises à la volonté générale, ça peut se dire, ça peut s'expliquer, je crois.
Si on revient au Rassemblement national.
Bessellier veut revenir au Rassemblement national.
C'est un parti politique. Donc j'admets.
Démocratique.
J'admets qu'il a une approche politique. Ouais, il est évident que l'avortement est un point politique important, notamment sur l'avenir de la natalité en France et sur l'avenir donc des Français, tout simplement, spécialement pour un parti qui se bat contre la déferlante migratoire. Et je suis stupéfait, si vous voulez, et Marine Le Pen a, au cours de sa carrière politique, exprimé un certain nombre de réflexions sur la question de l'avortement et son rapport avec la politique et le fait que ça ne soit ni anodin ni quoi que ce soit. Et donc je suis stupéfait, mais ce n'est pas la première fois, de cette politique de gribouille, de cette politique dans laquelle on fait le jeu de l'ennemi. Il n'y a rien à faire. Les gens qui proposent cette loi sont les ennemis du Rassemblement national. C'est une évidence. Ils sont des ennemis de la France en même temps. Bien. Et donc...
C'est ça qui est important,
voilà,
pour le coup.
Il est évident, je suis d'accord que politiquement, il faut se sortir habilement du piège tendu par l'ennemi. Ça, c'est vrai. Et il faut réfléchir, et il faut travailler pour éviter d'être pris, si vous voulez, finalement, être coincé dans un corner et ne pas pouvoir sortir. Mais sortir d'une difficulté comme ça, politique, profonde, en faisant le jeu de l'ennemi, ça, c'est ce que j'appelle la politique de Gribouille qui se jette dans la mare pour éviter la pluie.
Mais
c'est n'importe quoi.
Mais est-ce qu'on ne se jette pas déjà dans le cornet dès l'instant qu'on devient un parti politique de la démocratie moderne?
Voilà, bon, c'est un point plus... Mais je dirais...
Non, mais c'est une question
je suis d'accord, mais par exemple...
Mais c'est une autre question.
Si vous voulez...
Oui, mais c'est une question plus radicale, mais qui finalement...
Winstort est piégé par Bismarck, oui. D'accord, sur la sortie du Kulturkampf, et Winstort sort de façon habile du piège et évite effectivement là où Bismarck veut le mener, sans aucunement remettre en cause, ce qu'il est en train de faire, son parti politique, qui lui-même était un parti démocratique dans l'Allemagne impériale. Donc, je suis stupéfait de ce manque de pertinence politique, encore une fois.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une logique démocratique, quand même, qui
compte? Oui, moi, vous avez raison, mais je suis stupéfait plus avant, dans l'absence de réflexion politique profonde, de philosophie politique, de théologie politique, de ce
qui... Oui, mais le Front National de Jean-Marie Le Pen avait déjà très peu de fondements doctrinaux. Le Rassemblement national de Marine Le Pen n'en a aucun. Soyons honnêtes. Donc,
on ne va pas juste faire le procès du
Rassemblement
national.
Non, je ne fais pas le procès. Mais je dis que c'est une politique de Gribouille de voter cette loi qui est proposée par les ennemis de ce parti.
Très bien, monsieur Labbé-Sévier. Le père Donzier que vous voulez intervenir.
Moi, je rejoins évidemment mon ami l'abbé Claude Barthes sur le fait qu'il y a une question de philosophie politique, évidemment. C'était l'émission qu'on avait fait sur la démocratie avec Laurent Dandrieu. Il y a quand même une question de fond qui se pose, c'est que, qui a été soulevée brillamment par Michel de Gers dans son dernier ouvrage, à savoir que, évidemment, la démocratie moderne, qui se base sur la Déclaration des droits de l'homme, notamment avec ce fameux article 3 et article 6 de la Déclaration, qui dit que la volonté générale a force de loi, on voit bien qu'il y a une scission, une rupture avec les lois non écrites, décrites par Antigone et Créon. Donc ces lois non écrites, c'est-à-dire des lois supérieures qui dominent
la loi naturelle.
Or cette loi naturelle, elle était transmise bon an mal an malgré la rupture de 1793. Elle a été assez préservée dans la transmission en général dans la masse. Et justement, là, on parlait du Rassemblement national, mais souvenez-vous quand Jean-Marie Le Pen passait à l'heure de vérité, où on lui reprochait qu'une de ses députées, dans un meeting, avait parlé d'une de ses élus plutôt, avait parlé de Simone Veil comme la tricoteuse de Giscard, et d'une façon le plus débonnaire, Jean-Marie Le Pen dit bah oui, ce sont des propos qui sont tout à fait habituels de meeting, et en fait, il ne se démonte pas, et il dit bah oui, en effet, moi je défends la vie. Voilà. Maintenant, deuxième point, je pense qu'il ne faut pas. Monsieur Labbé-Sévier est stupéfait. Moi, je pense que, je ne suis pas stupéfait. Enfin, Marine Le Pen est une fille de l'école de la République. Ses députés n'ont pas de charpente forcément idéologique. On peut tout à fait regretter qu'ils étaient pris dans le piège, et c'est évident qu'il y a un piège, parce que soit ils sont contre, et d'un coup, ils paraissent pour des méchants réacs, soit ils sont avec, et c'est ce que disait Anne le Pape. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que d'un point de vue politique et cynique, est-ce que s'ils mettent le pied dans cette démarche politique de constitutionnalisation de l'avortement, est-ce qu'ils vont élargir leur base électorale? Moi, je ne le pense pas, c'est la première chose. Et puis surtout, c'est pas comme ça qu'on refait la France. Et c'est la fameuse phrase de Léon Daudet qui dit de concession en concession, on termine dans la concession à perpétuité. Donc je crois qu'à un moment ou à un autre, aussi la noblesse de la politique, et ça rejoint la morale évangélique, et ça rejoint donc la question aujourd'hui de ceux qui ont l'autorité dans l'Église, à savoir les évêques. Est-ce qu'on est prêt à prêcher à temps et à contre-temps la vérité?
Oui, mais est-ce que quand on s'engage en politique, on cherche une certaine efficacité?
L'art du possible.
Oui, c'est aussi l'art du possible par rapport à une situation donnée qu'on n'a pas forcément choisie.
Il y a des lignes rouges. Vous voyez, ça, je pense typiquement, ça, c'est une ligne rouge.
Est-ce
en fait.
Que... alors, je sais que ça revient à la question du moindre mal, mais est-ce que... la stratégie adoptée par le Rassemblement national. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire son procès ici, mais puisqu'ils ont été attendus, et vous l'avez bien dit, c'était certainement un piège, est-ce que de limiter la casse n'aurait pas été une stratégie un peu gagnante ?
Ça, on ne gagne jamais, de toute façon. Et sur ces questions-là, on est toujours perdant.
Elle ne veut pas vouloir intervenir.
Oui, parce que quand on disait que c'est une histoire de mœurs qui évolue, et pas dans le bon sens, je voudrais donner l'exemple de la Pologne, de la catholique Pologne, qui a inscrit dans la loi fondamentale du pays l'interdiction quasi totale de l'avortement en 2020. Et lors d'un entretien accordé au journal, alors pardonnez mon accent qui ne doit pas être le bon, Gazeta Wyborcza.
Vous ne parlez pas polonais couramment ?
Pas tout à fait couramment.
Je suis un peu déçu. Hein.
Le père Rafał Kowalski, donc le porte-parole de la curie épiscopale de Wrocław, la troisième ville la plus importante du pays, a déclaré « Après cette décision, donc d'introduire dans le marbre de la loi fondamentale du pays, l'interdiction quasi totale de l'avortement, après cette décision du tribunal constitutionnel, nous avons été inondés d'une vague de départ de l'Église et de désertion des cours de catéchisme à l'école. »
En réaction à cette décision politique.
Donc, voilà, je vous donne le fait, et ça fait peur quand même.
Oui, ça veut dire que les mentalités, même dans la catholique sont bien imprégnées.
Et quand on sait que Mgr Ravel a tout simplement annoncé qu'il allait voter Macron, et que Macron veut que l'avortement soit intégré à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, voilà, tout cela donne une situation quand même un peu curieuse.
Encore une fois, l'avortement n'est en aucune manière remis en cause. Donc là, on nous fait un sketch. Encore une fois, c'est participer à une manœuvre politique, je pense, habile de l'ennemi, mais il faut être habile face à ça, déjà par rapport à ça, parce que si demain ils veulent inscrire l'accueil du migrant dans la Constitution, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le voter pour un moindre mal. Non, on est...
Ça vous répondait à ce que je disais sur le moindre mal.
C'est n'importe quoi.
Je voudrais juste, moi aussi, livrer... Pardon, monsieur l'abbé, un petit témoignage après Anne Le Pape, c'est que lors d'un dîner auquel j'assistais hier soir, un directeur des ressources humaines me donnait ce témoignage qu'il a vécu, où un de ses collaborateurs était en retard un lundi matin pour son travail, et en discutant dans le reste de la journée autour d'un café, tout bonnement, ce collaborateur, père de famille, lui a expliqué qu'il était en retard parce que le matin, il avait dû conduire, il a dit tout de go, sa fille se faire avorter parce qu'elle avait fait une bêtise. Mais il parlait de l'avortement comme une chose absolument normale, comme s'il avait conduit sa fille chez le dentiste. Donc on est aussi dans une situation aujourd'hui où c'est complètement... par le biais des lois, encore une fois, depuis 1974, 1975, c'est intégré dans les mœurs et les gens parlent de l'avortement comme ils parlent tout à fait d'autre chose d'un point de vue médical.
Même en Pologne, où la loi n'a pas facilité.
Et c'est pour ça que je crois qu'on peut être désolé, déçu de la façon dont les députés du Rassemblement national dans leur ensemble, mais pas d'une façon... universel, hein, voilà, peut-être se sont rentrés dans cette démarche parlementaire. Maintenant, on peut être déçu, désolé, mais on ne peut pas être surpris. Si vous voulez, enfin, je veux dire, là-dessus,
c'est vraiment dans la logique.
Et je crois surtout, on peut le regretter. Est-ce qu'on peut leur reprocher ? C'est très difficile à dire, parce que ce qu'on peut reprocher, par contre, c'est ceux-là même qui devraient prendre la parole pour défendre la vie.
Parlons-en justement des évêques.
Ce sont les prêtres, vous voyez, là, pour le premier, les premières vêpres de l'Avent, c'est Veillées pour la vie qui ont été à l'initiative pastorale du pape Benoît XVI. Donc toutes les paroisses étaient invitées de faire une veillée de prière pour la défense de la vie naissante à l'occasion de l'entrée dans l'Avent qui nous fait donc vivre un peu cette gestation de la vie divine à l'approche de Noël. Bon, on ne voit pas d'une façon unilatérale le corps décisionnaire de l'autorité ecclésiale prendre ce problème à bras-le-corps. Et pourquoi ? Ben parce qu'il y a toujours une difficulté à assumer d'être une contre-culture. Moi, je crois que c'est vraiment le cœur nucléaire, oui, du débat sur cette question-là, mais dans tant d'autres sujets de société et de sujets ecclésiaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut accepter le réel, le fait, nous vivons dans une société post-chrétienne. Voilà. L'évangile ne domine plus les mœurs de notre société. Le décalogue est quelque chose de complètement dilué, en référence déjà à votre témoignage sur cet homme qui a accompagné sa fille, qui a parlé de ça comme un geste anodin de cet avortement sur sa jeune fille, qui a fait une bêtise, vous voyez, on est là, enfin, vous voyez, autrefois on aurait dit ma fille était l'objet d'un scandale, elle a fait un péché immensément grave, elle a sali sa virginité, enfin, vous voyez, on pourrait dire tout un tas de choses.
C'était autrefois, ça.
Oui, non, mais autrefois, non, mais bien sûr.
Le terme de bêtise est quand même bien installé depuis longtemps.
Oui, non, mais bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord pour que le terme bêtise soit installé, mais ce terme bêtise qui est installé dit quelque chose de notre société post-chrétienne.
Mais vous avez raison, oui, bien sûr.
Donc comme c'est une société post-chrétienne, l'Église est aujourd'hui, l'Église en tout cas en France, voilà, les hommes d'Église en responsabilité sont face à la situation suivante. Est-ce que, et c'est un sujet qui habite notre réflexion ecclésiale depuis longtemps, est-ce que nous voulons monter dans le train de l'histoire pour tenter de le spiritualiser ? C'était Montalembert et tant d'autres, Monseigneur Dupanloup à l'époque, et toute la démocratie chrétienne libérale. Ou est-ce que nous acceptons, non pas pour, avec orgueil, pour nous en prévaloir, pas du tout, mais est-ce que nous sommes prêts à accepter d'être une contre-culture dans le monde chrétien ? Et moi, je voudrais juste terminer mon propos en disant que tout de même, je suis assez surpris de cette ambition que peuvent avoir les hommes d'Église, d'essayer de conquérir le monde, vous voyez ? D'être accepté par ce monde, quand pour notre Seigneur lui-même, qui était le divin maître, le Verbe d'or, il a fait des miracles, etc. Et ça s'est terminé quand même sur la croix, vous voyez. Donc, enfin, je veux dire, à un moment ou à un autre, on ne peut pas être surpris nous-mêmes d'être cloués au pilori. Et tant pis, ça ne doit pas être notre but, vous voyez. Notre but, je l'ai déjà dit ici, notre but, ce n'est pas en nous réveillant le matin, de nous rêver, avoir plus d'ennemis le soir en nous couchant. Mais ça doit être de prêcher le Christ à temps et contre-temps, au risque d'avoir plus d'ennemis le soir. Au risque, non pas que ce soit le but.
Alors c'est très intéressant ce terme de « à temps et contre-temps » que vous avez utilisé, puisque vous en parliez au début de l'émission, de manière parallèle à toute cette histoire de constitutionnalisation et de l'avortement, il y a l'affaire de ce prêtre, donc l'abbé, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais intervenir pour la radicalité.
Bon, alors je vous laisse intervenir parce que je suis vraiment très très bon.
non, bien sûr, vous avez raison. Il faut en effet se constituer comme contre-culture dans cette société qui. Mais contre-culture de manière, je dirais, très radicale. En effet, contre les mauvaises lois qui seront toujours plus mauvaises. Parce que la société évolue dans le mal. C'est une espèce de vision d'apocalypse qu'on peut avoir quand on voit comment les choses... Et la loi s'applique à ces mauvais désirs, finalement, hein, puisqu'il s'agit de là, pour prendre le mot de Lacan. Bien, mais...
Vous n'avez pas fini votre phrase, hein, pardon.
je voudrais surtout finir ma pensée, qui est de dire que les évêques doivent en effet prêcher pour la vie, mais ils doivent aussi prêcher pour le Christ III, ce qui est beaucoup plus radical aujourd'hui. Alors évidemment, toute la question est de savoir comment le faire, comment on peut imaginer quelque chose qui soit efficace en ce sens, c'est vrai, mais en tout cas, il faut dire et affirmer que c'est parce que nous étions une société chrétienne et que nous ne sommes plus, et que dans cette société qui n'est plus chrétienne, évidemment, font toutes sortes de choses. Mais parce que la loi de soi est mauvaise. Oui. Et c'est le principe même de la volonté générale que les évêques devraient pouvoir attaquer. Ce qu'ils étaient en capacité d'attaquer avant le Concile, pour plusieurs raisons, c'est que d'abord, il n'y avait pas le Concile, il n'y avait pas la liberté religieuse, il n'y avait pas cette embrassade de l'Église avec la démocratie, hein, comme telle, du magistère même, enfin, magistère entre guillemets, avec la démocratie, mais qu'il y avait encore aussi des régimes qui pouvaient être discutables de toutes sortes de manières, mais qui mettaient la loi naturelle et la loi de l'Église au centre de leurs institutions, de leur constitution.
Mais tout ça est fini, monsieur.
Tout ça est fini, mais justement, mais de ça, il faut parler.
Oui, mais sur le fond, vous avez raison. Tout ça est fini à la demande de l'Église.
Oui, oui. Sur le fond, vous avez évidemment raison sur le comment le faire, mais le drame de la situation actuelle, c'est que nous n'en sommes même pas à ce stade du comment. Nous sommes à ce stade, est-ce qu'ils ont envie?
Voilà, tout à fait.
Moi, je tiens de la bouche d'un évêque qui m'a dit... Je sens bien que la société se délite, etc. Et vraiment, il faut quand même éviter que l'Église catholique de France se transforme en une contre-culture. Mmh. Et la peur d'être que le monde, que le réel actuel, avec donc, toutes ces désillusions, toutes ces contradictions, tous ces péchés, la peur que le réel nous se dérobe devant nous.
Et voilà. Complètement intégré dans le système.
Les meilleurs d'entre eux ne sont pas capables de lire et de faire...
C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas envie aussi.
Oui, c'est sûr. Cosmorivas, par exemple, c'est plus possible. C'est complètement... Or, c'est quand même ça, n'est-ce pas, le fondement de notre politique chrétienne.
Monsieur l'abbé, est-ce que vous m'autorisez...
Excusez-moi.
À poursuivre. Donc, je rappelle ce cas de... Donc, parallèle à l'affaire de la constitutionnalisation, j'y suis arrivé, de l'avortement, ce cas de l'abbé François Schneider, donc il n'a aucun rapport avec Monseigneur Schneider, qui, lors de, vous le rappelez, Père Danziek, a déclaré lors de la messe du 11 novembre, devant les élus présents pour cette messe célébrée pour les morts de la Première Guerre mondiale, a souligné dans son sermon, mais comme il le fait très habituellement, a souligné que l'avortement avait fait beaucoup plus de morts que la Première Guerre mondiale. Il a été sanctionné, alors pas directement par son évêque, puisque celui-ci est sur son lit d'hôpital, mais par l'administrateur apostolique, à savoir le...
Monseigneur Berthet, sur son lit d'hôpital.
Oui, sur son lit d'hôpital, tout à fait, oui. Et donc par l'administrateur apostolique, qui est un évêque voisin, qui a été, à qui on a confié la direction du diocèse. Donc la sanction, c'est que pendant 4 semaines, il est interdit de prédication. 3 canons ont été invoqués.
On peut peut-être envoyer les téléspectateurs ou ceux qui nous écoutent à la formidable enquête sur le site de l'Homme Nouveau. Voilà, je vous arrache les mots peut-être.
Non, c'est parfait. Vous me direz combien je vous dois après cette émission. Oui, effectivement, nous avons enquêté sur le sujet.
C'est très complet, très précis.
Mais là aussi... on nous a dit justement dans cette enquête que ce qu'on reprochait à ce brave abbé, à ce brave prêtre, c'est d'être, d'intervenir de manière inopportune sur cette question de l'avortement et de ne pas employer les mots qu'il fallait pour que ça puisse passer.
Moi, je dirais, c'est peut-être pas le bon moment, au moment d'une cérémonie pour le 11 novembre, de parler de l'avortement. Ça, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas de réfléchir à ça. Mais on est dans la même politique de gribouille. C'est-à-dire qu'on fait
vous
le jeu de...
Vous aimez bien ce mot gribouille.
Non, mais
hein.
C'est la comtesse de Ségur que j'aime bien. Mais on fait le jeu de l'ennemi. Effectivement, peut-être que moi, si j'estimais que c'était inopportun, si j'étais évêque et j'estimais que c'était inopportun, je convoque le prêtre. Et en privé, je l'engueule d'importance et je dis rentrez chez vous. Et après, je le défends. Et après, je le défends.
Oui, parce comme que, un chef, quoi, en fait.
Parce que, tout simplement, il a dit une chose vraie. Il a dit une chose purement et simplement vraie. Il y a eu plus de morts par l'avortement que par la Première Guerre mondiale, qui était déjà une boucherie pour la France. Donc, c'est une chose vraie.
Et sans scandaliser, je voudrais ajouter que c'est pire. Ce sont des innocents.
Malheureusement, les Français qui ont été mobilisés étaient aussi des innocents.
Le mot tulipe sur le mot inopportun. Le reproche qui a été fait à l'abbé Schneider sur la dimension inopportune de son intervention. Moi, ça m'a beaucoup surpris parce qu'il se réfère à un canon. Alors, je ne suis pas canoniste, mais je m'interroge.
Trois canons,
mais il y en a un, justement, qui dit, voilà, on veillera à prêcher le Christ et sa parole et son évangile d'une façon à être compris par le temps et la période.
Par ceux qui écoutent, en fait.
Je m'interroge si le code de 17... à ce canon-là ou pas, parce que ça fait... En fait, c'est un canon quand même, on peut, excusez-moi, mais on peut le sortir et condamner presque tout le monde si on veut. Enfin, c'est un peu un canon à plusieurs portes.
Et par ailleurs, il a été très bien compris.
Voilà, peut-être
trop bien compris.
Vous connaissez la règle humoristique ecclésiastique, hein, on a le droit à 3 hérésies par sermon. Donc, effectivement, si on se met à dire, voilà, dans votre sermon, vous avez eu cette maladresse ou cette compréhension, on va interdire toutes les prédications. Encore une fois...
Pas forcément une mauvaise idée.
Voilà, encore une fois, dire à quelqu'un d'un point de vue pastoral en privé, enfin je veux dire, lui dire non, là c'était pas le bon moment, c'était pas habile, etc. Bon, pourquoi pas, mais d'un point de vue extérieur, c'est une chose qui est vraie, qui est dans la droite ligne de la doctrine de l'Église. Donc, on doit défendre celui qui l'a dit. Encore une fois, quitte à l'engueuler en privé, ça c'est autre chose.
Je vous propose que nous écoutions Anne le Pape.
Moi, je pense que cet exemple de l'abbé Schneider prouve tout simplement qu'on ne doit pas dire que l'avortement est une violence. Ça m'a rappelé le tweet de Mgr Hayet qui avait comparé la violence de l'avortement à celle de Daesh. Ça a fait tout un cirque. Il s'est repris, il a dit qu'effectivement, en 140 signes, etc., que sa pensée avait peut-être été mal interprétée, etc. Mais enfin, voilà, je pense que le problème, c'est ça. L'avortement, c'est, comme le prouve l'anecdote que vous nous avez racontée, Philippe, l'avortement, c'est quelque chose de doux et de naturel. On ne doit pas insister, on ne doit pas dire que ça tue des gens.
Et que ça traumatise terriblement les mères.
Exactement.
Et c'est tellement anodin, d'ailleurs, que beaucoup de médecins aujourd'hui, évidemment c'est de l'ironie, mais sont prêts à avorter. Il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de médecins qui acceptent de procéder à des IVG.
D'où cette idée de constitutionnaliser avec comme portée de ne pas de supprimer le droit de refuser
l'objection de conscience. Et quant à la méthode de l'abbé Schneider, bon, c'est de la provocation, pourquoi pas, mais le Christ dans l'Évangile...
Dont il est coutumier, c'est ce qu'on lui reproche.
Bon, très bien, mais notre Seigneur a fait, semble-t-il, le plus de guérison le jour du sabbat, histoire de provoquer les Juifs.
Et puis, si effectivement il a l'habitude de faire des provocations...
Il a l'habitude de tenir ce langage.
Voilà, mais c'est un autre moment qu'il faut éventuellement... vous mettez un peu le bazar dans votre paroisse, c'est pas génial. C'est un autre moment. Sur ce moment-là, il faut défendre la vérité de ce qu'a dit l'abbé Schneider, tout simplement.
Et je crois que ça renvoie, hélas, à cette sempiternelle deux poids, deux mesures auxquelles les baptisés de bonne volonté doivent faire face. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une sanction qui tombe, qui n'est pas forcément la plus adaptée contre ce brave confrère qui n'a dit en somme que la vérité, et ça je vous rejoins tout à fait, un évêque, un chef, il lui dit écoutez, voilà, si vous pouviez m'éviter de devoir répondre, de faire un communiqué, etc., donc c'est quand même pas malin votre affaire, il y a peut-être d'autres méthodes, d'autres façons de faire, bon, maintenant on va rappeler la doctrine, etc., et dans le même temps, on n'a pas vu de communiqué, à ma connaissance, répété, précis pour condamner le père Mathieu qui, sur TikTok, enchaîne les hérésies comme une bigote sur des Ave Maria sur son chapelet.
Mais il y a de bons évêques, on ne va pas les nommer, qui ne vont pas sanctionner.
Pourquoi on ne va pas les nommer, justement? Parce qu'il y a un climat de faut les protéger, finalement.
Il ne faut pas les protéger, mais c'est bon, oui. L'évêque de Nîmes n'a pas sanctionné le prêtre qui... Enfin, peut-être qu'il l'a repris en privé. Donc, il n'y a pas eu de sanction publique. Un prêtre qui a, de fait, béni un mariage homosexuel. Et voilà. Et on n'a pas sanctionné les évêques de Belgique néerlandophones, qui ont institué un rituel pour ces bénédictions, etc. Non, c'est vrai, il y a deux poids, deux mesures.
Et c'est ça, cet appétit de justice, vous voyez, chez la base, elle crie. Elle crie vers le haut, et on aimerait que certaines fois ça soit entendu. Voilà.
Ouais. Est-ce que finalement ce n'est pas que, à la fois dans la société civile et dans l'Église, l'avortement est devenu un véritable tabou ou une sorte de totem qu'on ne peut pas toucher, sur lequel on ne peut pas même s'exprimer en toute liberté?
Sans nul doute, mais ça nous renvoie, je pense, à la situation, au climat social aujourd'hui, à savoir que nous sommes dans une société post-moderne, post-chrétienne, et on se retrouve étourdi, mais on se retrouve comme au temps des premiers chrétiens. Voilà, au temps des premiers chrétiens. Et si on est au temps des premiers chrétiens... Monsieur l'abbé, mais... Et c'est cette conscience-là, je crois, qu'il faut avoir. Voilà. Nous sommes en extrême minorité, et en même temps, nous avons les paroles de la vie éternelle. Donc, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?
Est-ce que nous n'avons pas besoin des évêques, justement ?
On a toujours besoin de l'autorité. Comme, c'était notre discussion.
Non, mais que les chefs sortent.
Malheureusement,
mais encore une fois,
le problème.
Totalement d'accord avec le père Donziac. Nous sommes autant de l'Empire romain, et notre vocation, à certains égards, c'est le martyr. Alors, pas forcément d'être découpé en morceaux, mais d'être méprisé, d'être rejeté, d'être condamné civilement. Il y a quand même une loi récemment, sous le gouvernement Macron, la loi sur le séparatisme, qui demande le contrôle des prédications. Disons-le très, très clairement, qui demande le contrôle des prédications. Non. Si dans une prédication, je mets en cause la République, je peux être condamné, la congrégation à laquelle j'appartiens peut être condamnée, l'Église peut être fermée, etc. C'est ça la réalité.
Créons Antigone, est-ce que les lois de la République doit être l'étalon, l'indépassable pour nous, etc.
C'est tout le problème. Évidemment
que non.
Et le problème dans le problème, c'est que les évêques doivent le dire. Ouais. Ils doivent se battre sur ce front-là.
Merci beaucoup, madame, messieurs, de votre apport sur cette grave question de l'avortement. Si j'ai bien compris, donc, extension du domaine de la persécution en ce temps de République démocratique moderne. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un sujet beaucoup plus apaisé, beaucoup plus spirituel. Apaisé, du moins, je l'espère. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.